Bonjour, connaissez-vous les objectifs de développement durable ?
Ils ont été adoptés à l'ONU en 2015 avec la collaboration des citoyens, des associations, des entreprises, des jeunes et des États.
C'est une feuille de route de 17 défis visant à transformer nos modes de vie d'ici à 2030.
Alors on sait, ça paraît loin 2030, mais on est déjà en train de changer de société. Beaucoup de choses bougent déjà et toutes les empreintes que nous laissons ont un impact sur demain.
Il nous reste maintenant 10 ans pour aller vers un système plus durable et désirable.
Et c'est pour ça qu'on a voulu rencontrer des personnes qui ont une autre vision du futur.
Et parmi tous les sujets qu'on aurait pu traiter, on a choisi la mode.
On a choisi la mode parce que c'est partout autour de nous et qu'on peut acheter des vêtements tous les jours si on le souhaite.
Alors que l'industrie textile est aujourd'hui l'une des plus polluantes du monde.
Mais chacun d'entre nous a le pouvoir d'agir sur son mode de consommation et on va en discuter ici.
C'est Gaëlle et Lisa de l'association 4D et vous écoutez Remode-toi.
Aujourd'hui, Chloé, créatrice du podcast Nouveau Modèle, qui interviewe des actrices de la mode durable, répond à nos questions.
Nous l'avons interviewée pendant la période de confinement que connaît la France, suite à l'épidémie de Covid-19. On vous laisse avec cette conversation.
Bonjour Chloé. Merci d'avoir accepté qu'on puisse se rencontrer malgré la situation un peu particulière dans laquelle on est. Pour commencer l'interview, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs et puis expliquer ce que tu fais avec le podcast Nouveau Modèle ?
Bien sûr, bonjour, merci beaucoup de me recevoir et de me permettre de m'exprimer ici. Donc on est à distance, c'est sympa, c'est une autre façon d'enregistrer des podcasts. Donc je m'appelle Chloé Cohen, j'ai 30 ans, je suis journaliste et donc j'ai créé le podcast Nouveau Modèle en septembre 2018, donc ça fait un petit peu de temps maintenant. Et le podcast, l'objectif, c'est vraiment de mettre en avant une mode responsable et engagée, ou en tout cas des femmes qui s'engagent sur ce terrain-là et qui souhaitent proposer une alternative à ce qu'on appelle la fast fashion, donc la mode jetable qui pollue, qui exploite les gens à l'autre bout de la planète. Et donc le but, c'est vraiment de mettre des alternatives en lumière, des alternatives positives, et des femmes qui s'engagent pour une mode plus éthique, plus durable, plus responsable, moins polluante. Donc voilà l'objectif du podcast.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer le podcast et comment le projet s'est créé ?
J'ai eu envie de créer quelque chose autour de la mode responsable parce que j'ai vraiment eu une prise de conscience dans ma consommation. Mais la mode est arrivée un peu plus tardivement. J'ai pris conscience d'abord via l'alimentation, via tous les produits de grande consommation, la beauté. Je pense parce que ça nous touche, on a l'impression que ça nous touche beaucoup plus personnellement peut-être, parce que l'alimentation, c'est ce qu'on mange, les produits de beauté, c'est ce qu'on met sur la peau. Donc on a tendance à faire plus attention pour la santé peut-être. Et puis l'industrie textile, c'est venu un petit peu plus tard. Et je crois qu'à New York, donc j'ai vécu à New York pendant 3 ans et c'est là-bas que j'ai créé le podcast. Et je pense que sur place, je me suis vraiment pris en pleine face la société de consommation, d'ultra-consommation, avec le plastique partout, les magasins immenses partout de fast fashion. Et j'ai pris conscience, je pense, des dérives à ce moment-là, enfin vraiment. Après, je me souviens très bien du Rana Plaza, j'étais journaliste au Parisien à ce moment-là, donc j'ai dû traiter le sujet, ça aussi, ça m'avait beaucoup marqué. Mais je pense que ça a mis un petit peu de temps avant de faire son bout de chemin dans ma tête, le temps de regarder des reportages comme The True Cost, par exemple, de lire des livres, des documents, enfin de regarder d'autres documentaires, de me renseigner. Il a fallu que je digère toutes ces informations avant de vraiment avoir conscience de l'impact. Et donc, c'est comme ça qu'ensuite est né le podcast où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment matière sur l'industrie textile et que les gens étaient un peu au même niveau que moi au départ, on n'en avait pas forcément conscience, on préférait pas trop y penser et puis surtout c'est une chose de savoir mais après qu'est-ce qu'on fait puisqu'on est obligé de s'habiller, donc je me suis dit qu'il y avait vraiment un besoin pour mettre en avant d'autres alternatives et montrer qu'il était possible d'acheter des vêtements autrement. Donc c'est comme ça qu'un peu est né le projet.
Oui, et puis comme tu disais, c'est un projet où tu interviews des femmes volontairement. Du coup, on voulait savoir comment est-ce que tu les choisis.
Alors, il y a plusieurs façons. C'est que j'utilise pas mal Instagram finalement pour faire ma veille et essayer de repérer des alternatives intéressantes, enfin des projets intéressants. Et après, je m'attarde beaucoup sur la personnalité de l'invité. Ça peut être aussi du bouche à oreille, enfin voilà, où je suis contactée directement par des marques. Il faut vraiment que je sente que sa démarche, c'est pas simplement pour sa marque, parce que aujourd'hui, c'est important de faire attention. J'ai pas besoin que la marque soit parfaite, que la personne soit parfaite. Ça n'existe pas de toute façon. Ça m'importe peu. Je suis souvent démarchée par des marques, des très beaux projets. Enfin voilà, tout est chouette. Mais voilà, il faut vraiment que je sente que la personne me touche, que le projet soit un peu différent, que la personne ait une histoire à raconter, enfin que la femme ait une histoire à raconter. Donc voilà comment je l'ai choisi.
Oui, surtout que tu tournes beaucoup tes interviews aussi autour de l'histoire de la personne, en fait, sa vie, comment est-ce qu'elle en est arrivée au projet qu'elle est en train de créer ou de mener à l'heure actuelle, quoi.
Exactement, parce que le but, c'est évidemment de mettre des projets engagés en avant, ça c'est sûr, mais je ne suis pas là pour faire la com du projet, ce n'est pas du tout mon objectif. Mmh. Mon objectif, c'est vraiment de montrer qu'en fait, tout le monde peut s'engager, que c'est à la portée de tout le monde et que la moindre petite action a toute son importance aujourd'hui. Si on s'y met toutes et tous, on peut vraiment y arriver. Et donc, c'est ça que j'ai envie de montrer. Et c'est pour ça que j'ai envie de montrer aussi le cheminement de la personne. Comment elle en est arrivée à s'engager? D'où il vient son engagement? Voilà. Et qu'est-ce que ça lui apporte de s'engager via sa marque?
On a vu aussi qu'il y avait beaucoup de femmes que tu interviewais qui venaient de Paris. Est-ce que c'est aussi pour des questions de faisabilité, parce que c'est plus facile quand on habite dans le même endroit pour se rencontrer, ou est-ce que tu penses qu'il y a peut-être aussi un vivier un peu plus créatif sur la mode durable qui peut se passer à Paris et qui est un peu plus compliqué de mettre en place ailleurs?
Alors, je pense pas du tout. Je pense que, enfin, si j'avais les moyens et l'opportunité d'aller dans toutes les régions de France, je le ferai, mais avec un immense plaisir. Il y a des projets magnifiques qui sont en dehors de Paris et des personnes incroyables avec qui j'ai pu échanger. Malheureusement, comme le projet, enfin comme avec le podcast, je ne gagne pas encore ma vie, c'est compliqué de dépenser de l'argent dans les billets de train pour se déplacer. Ça a quand même un coût. Alors, je le fais de temps en temps, surtout quand j'ai lancé aussi un nouveau format de reportage, je le fais, mais de façon, voilà, c'est vraiment exceptionnel parce qu'il faut des moyens, parce que ça coûte cher. Je pense que c'est hyper important aussi de pas mettre en avant que les personnes qui créent la marque à Paris. Il y a aussi toutes les personnes derrière qui font en sorte que cette marque existe. Les couturières, les couturiers, les agriculteurs, les agricultrices, enfin je veux dire, un pull en laine, ça vient d'abord du monton, un t-shirt au coton, ça vient d'abord de la plante, et toutes ces personnes-là, elles sont indispensables pour faire une mode plus responsable et plus engagée. Donc ça, ce serait génial si je pouvais partir tout le temps, mais malheureusement, c'est pas encore le cas. J'espère que ça viendra. Voilà, exactement.
Et maintenant, ces temps actuels, donc tu as dû adapter ton podcast. Ben, notamment, on a relayé sur nos réseaux le défi challenge 11 jours pour adopter une garde-robe responsable. Est-ce que tu peux nous expliquer le contenu de ce challenge et quels sont les objectifs derrière?
Bien sûr. Alors, le contenu du challenge, alors j'ai appelé ça challenge, je ne sais pas si c'est exactement le mot le plus adapté, mais disons que on me posait souvent la question de « mais est-ce que tu aurais des conseils pour abandonner la fast fashion et se tourner vers une mode plus responsable ?» Et donc, je me suis dit « profitons du temps en confinement, parce que clairement, je peux, voilà, comme je ne peux pas sortir de chez moi, j'ai quand même un peu plus de temps que d'habitude. » Je me suis dit « c'est l'occasion de créer, d'imaginer des conseils pour adopter une garde-robe plus responsable. » Alors, je suis partie sur 11 jours parce qu'en imaginant le challenge et en listant un peu tout ce qui me semblait important, ça tombait sur 11 jours. Et donc, je suis partie d'abord de ce qui me semblait essentiel, c'est de l'information. Donc, dire pourquoi c'est important de se tourner vers une garde-robe responsable, déjà pour les gens qui n'en sont pas encore convaincus. Donc donner des informations, des chiffres sur la pollution de l'industrie textile, sur l'exploitation, sur ce genre de choses. Expliquer ce qu'on entend par mode responsable, parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Et ensuite le décliner sur différentes thématiques, donc sur déjà apprendre à aimer ce qu'on a dans nos placards, trier ses placards, qu'est-ce qu'on fait des pièces qu'on a mises de côté, faire attention au greenwashing, privilégier la qualité plutôt que la quantité. Pourquoi acheter de façon obsessionnelle, finalement, ça ne nous apporte pas de bonheur, enfin, c'est un leurre et c'est plus le contraire. Et ensuite, parler des alternatives de consommation comme le vintage, la seconde main, la location de vêtements. Voilà, se détacher petit à petit de la possession, parce qu'on y arrive. On est dans une société qui, progressivement, finalement, arrive à mettre ça en place. Donc, pourquoi c'est important de le faire aussi avec nos vêtements. Donc, voilà, et donc ça s'étale sur 11 jours. J'avais pris la date de la Fashion Revolution Week comme un peu un symbole, et ça se terminait le jour anniversaire, je ne sais pas si on peut dire ça, mais de l'effondrement du Rana Plaza, mais c'était très symbolique, c'était pour communiquer dessus de façon efficace, mais je veux dire, il est disponible tout le temps, ce challenge, et tout le monde peut le faire à son rythme, quand on veut, voilà. Et je vais essayer aussi de l'alimenter de temps en temps, de compléter, voilà, des choses que je peux passer à côté de choses, parce que ce n'est pas exhaustif, donc voilà, s'il y a des idées qui me viennent au fur et à mesure, je vais le compléter, et donc voilà.
Ouais, bah c'est super complet en fait, parce que du coup tu parles à la fois des questionnements autour de l'accès à l'information, mais aussi avoir une consommation qui est du coup plus éthique et du coup plus durable, et en questionnant aussi forcément le travail et aussi les questions environnementales. Et en fait, du coup, tous ces thèmes-là, c'est des thèmes qui ont été désignés comme des objectifs de développement durable. Et qui ont été construits comme un outil pour aider au développement et pour aider à l'accélération et à la transformation vers un mode de vie et un mode de consommation plus soutenable.
Et à travers ton podcast, donc, tu cherches à montrer que d'autres chemins sont possibles, et tu fais notamment les ponts entre la mode responsable, le féminisme et l'écologie. Et donc on voit qu'il y a une certaine transversalité qui se dégage comme avec les objectifs de développement durable. On aimerait que tu développes un peu cette idée de transversalité que tu transmets à travers le podcast.
Bien sûr. En fait, pour moi, quand j'ai commencé à mettre le pied dans la mode responsable, je pense que mon éveil féministe s'est aussi un peu aiguisé et est devenu de plus en plus présent, parce que pour moi, en fait, ces trois thèmes sont vraiment hyper liés, et je vois pas... je pense que l'un ne marche pas sans l'autre, parce que quand on défend une mode responsable, on défend aussi une mode qui n'exploite pas les gens à l'autre bout de la planète. Et quand je dis les gens, c'est principalement des femmes qui sont des ouvrières de l'industrie textile au Bangladesh, par exemple. Et ce sont elles les premières victimes de cette fast fashion et de cette mode qui ne respecte ni la planète ni les gens. Et du coup, pour moi, vraiment, l'un ne va vraiment pas sans l'autre. C'est-à-dire que si on se dit féministe, c'est compliqué d'aller acheter des vêtements chez Zara, parce qu'on sait que derrière, ce sont les droits des femmes qui sont complètement bafoués. Et donc, même si je sais que les combats, on ne peut pas être partout et mener tous les combats, mais ça me paraît un peu contradictoire de défendre les droits des femmes dans notre pays pour ensuite ne pas se soucier des droits des femmes qui vivent à l'autre bout de la planète. L'écologie, ça va vraiment aussi avec la mode responsable, parce que l'industrie textile pollue, et que défendre son environnement, c'est faire en sorte de moins polluer, donc ça passe aussi par les vêtements. Alors évidemment, notre t-shirt en polyester, c'est un dérivé du pétrole, c'est synthétique, donc ça marche pas, mais ça pollue, donc on va essayer d'éviter d'en acheter. Mais le t-shirt en coton, ça vient de l'agriculture, quoi, de la plante du coton qui a été récoltée. Enfin, c'est un travail aussi de personne, tout est vraiment intrinsèquement lié, et on peut pas parler d'un sujet sans parler des autres, à mon avis. Un peu finalement comme les objectifs de développement durable, ils ont tous une importance, mais ils sont tous aussi importants parce que les uns sont reliés aux autres, quoi. Donc un peu comme dans la mode responsable, quoi,
finalement. Ouais, et du coup, par votre podcast, mais aussi par ton métier de journaliste. Du coup, ton activité, elle rentre dans toute la sphère médiatique, d'accès à l'information, de diffusion de l'information. Comment est-ce que pense que toute cette sphère médiatique contribue aux objectifs de développement durable et comment elle devrait essayer de contribuer.
Alors, il y a pas mal de médias qui s'engagent déjà et qui le font, mais je trouve que c'est un vrai souci aujourd'hui. Moi, je suis convaincue qu'on doit prendre position sur ces sujets-là. C'est vrai qu'on nous apprend en école de journalisme que le média doit être objectif, doit donner la parole au pour, au contre. Aujourd'hui, sur le développement durable, pour moi, ça ne marche pas. Et sur l'écologie et la défense de notre planète, ça ne marche absolument pas. On ne peut pas donner la parole aux gens qui ne la défendent pas. Donc, il faut plus d'engagement de la part des médias et des journalistes. Et il faut le faire de façon aussi positive parce qu'on nous balance à longueur de journée des informations négatives et on en a marre. Et du coup, c'est aussi comme ça que j'ai construit le podcast en me disant il y a un vrai ras-le-bol de la part des gens de cette information anxiogène, même si c'est important hein, d'avoir conscience des effets de notre activité sur la planète, il faut en avoir conscience, mais ce n'est pas suffisant pour agir et pour changer notre façon de consommer. Il faut montrer que c'est possible et qu'en fait, l'action individuelle est ultra importante. Et pour ça, il faut que les médias s'engagent et fassent du journalisme de solution. Et ça, pour moi, c'est hyper important et on arrivera à encourager l'action autour de la protection de notre planète que comme ça. Il faut montrer l'exemple dans les médias pour que les gens ensuite s'engagent, suivent cette tendance et aient envie de faire des choses, quoi. Il faut donner envie aux gens de protéger la planète. Donc ça, c'est hyper important.
Oui, puis il y a un biais aussi dans le sens où il y a beaucoup de débats qui sont organisés dans la sphère médiatique où on oppose une vision qui dit que le réchauffement climatique n'existe pas, qui est une vision qui est défendue par un nombre minime de personnes. Et face à elle, on va mettre quelqu'un qui fait partie du corps scientifique et qui, comme une grande majorité de ce corps scientifique, affirme déjà depuis de longues années, voire décennies, que si, on est bel et bien en train de vivre un réchauffement climatique et que c'est dangereux. Et en fait, de mettre à équivalent en termes de nombre d'individus lors d'un débat et de mettre une personne contre une personne alors que ça ne représente pas forcément la réalité de la situation, ça peut être aussi dangereux, quoi.
Oui, et puis ça peut rendre aussi les débats stériles dans le sens où les gens sont déjà d'accord mais ils restent dans leur prise de position sans faire avancer vers les solutions.
Je suis entièrement d'accord avec ça. En fait, c'est juste changer de paradigme et de façon aussi de voir les choses parce que après, il y a des médias qui le font très bien et par exemple, le groupe Society va lancer un magazine qui s'appelle So Good, si je ne dis pas de bêtises, sur justement mettre en avant les personnes qui s'engagent, dresser leur portrait, montrer qu'il y a des alternatives, des solutions. Et en fait, c'est ça pour moi, l'avenir du journalisme et la façon dont il faut traiter l'information. Donc voilà, certains ont déjà compris et sont en train de basculer et de le faire. Et peut-être que ça va venir progressivement dans la façon de traiter de l'information. Après, c'est sûr qu'il en faut pour tout le monde. Voilà, il faut pas oublier le reste, évidemment. Mais pour moi, il faudrait aussi que la partie environnement ne soit plus un service dans les médias. Donc, les pages environnement ou voilà, ce genre de choses. Il faudrait intégrer les problématiques environnementales dans toutes les problématiques, dans l'économie, dans la politique, dans tout. Il faudrait en parler partout, tout le temps. Et pas seulement donner ça à un service en particulier.
Et en parlant de l'idée de traiter différemment les sujets, comme on l'a dit, on est dans une période qui est très particulière où on se pose beaucoup de questions pour savoir comment va être fait le monde d'après. Beaucoup de spécialistes, scientifiques et de tous bords prennent la parole pour expliquer comment il va être fait et comment il va s'organiser. Tu l'as mentionné dans ta dernière newsletter, mais c'est vrai qu'on l'a vu entre autres avec la une du Parisien qui présente quatre hommes qui ont plus de 40 ans et qui se ressemblent tous, évidemment. Et en fait, c'est des personnes comme ça qu'on met en avant dans ton interview, dans ton podcast. Tu montres déjà, tu n'interviews que des femmes et tu essayes de montrer une diversité dans les idées, dans les profils. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette volonté déjà de donner une parole médiatique à des personnes qui ne l'ont pas forcément et aussi l'importance de le faire et ce que ça peut apporter justement au monde d'après?
C'est indispensable, c'est essentiel. Moi, quand j'ai vu cette une du Parisien, mais ça m'a tellement mise en colère de voir ça encore en 2020, de me dire, mais comment on a pu laisser passer un truc pareil, quoi ? Quatre hommes blancs de plus de 40 ans qui pensent le monde d'après. Enfin, je veux dire, c'est oublier complètement toute la diversité de la France, la moitié de la population. Enfin, c'est incroyable d'en être encore là aujourd'hui. Et malheureusement, quand on regarde les plateaux de télévision et qu'on voit que des hommes débattre de l'avenir de la planète, de l'avenir de notre monde, moi, ça me rend folle. Les femmes ne sont absolument pas représentées et suffisamment dans les médias. On ne fait pas l'effort d'aller les chercher quand on va chercher des spécialistes. Et c'est pareil dans l'industrie textile, hein, dans la mode. Je veux dire, on entend toujours les mêmes voix, souvent des hommes, et qui font des projets très, très bien. C'est génial. Mais il faut qu'on aille chercher cette diversité-là, c'est hyper important d'aller donner la parole aux femmes qui ne l'ont presque pas. Et donc, moi, on me pose souvent la question, oui, mais si tu prônes l'égalité, dans ces cas-là, il faudrait que tu donnes autant la parole aux femmes et aux hommes. Oui, je le ferai le jour où les femmes seront représentées à 50% dans l'intégralité des médias. On en est tellement loin que je pense qu'un petit coup de pouce de les mettre simplement en avant dans un podcast, ça ne peut pas faire de mal, quoi. Donc, voilà, je suis désolée, hein, je m'emporte un peu, mais c'est vraiment un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Je trouve que c'est indispensable aujourd'hui parce que déjà, quand les petites filles regardent la télé, lisent les journaux, voient la une du Parisien avec que des hommes, elles se sentent pas représentées, elles n'ont pas de rôle modèle. C'est indispensable de casser ce schéma-là aussi. Moi, j'espère que dans mon podcast, il y a peut-être des jeunes filles qui écoutent, qui sont en train de faire leurs études et qui se disent « Ah non, mais ça me donne trop envie, moi aussi j'ai envie de faire ça », de leur montrer que c'est possible, que des femmes réussissent, que des femmes le font, qu'elles s'engagent, et donc c'est indispensable pour les petites filles à l'école de leur donner des rôles modèles, quoi. Faut que ça change partout, et la diversité, c'est hyper important, et on en est encore loin. Donc effectivement, le jour où on aura atteint cette parité partout, je pourrai commencer à donner la parole aux hommes. Voilà.
Merci beaucoup pour ta sincérité. On va terminer notre émission par une dernière question. Comment vois-tu la mode en 2050 ?
Très bonne question. Alors moi, je suis positive. Hein. J'ai envie de rester positive, parce que je trouve que c'est important, sinon autant tout laisser tomber maintenant. Donc en 2050, je me dis qu'on parlera plus de mode responsable, parce que ça sera devenu la norme, et que toutes les marques, en fait, seront éthiques, seront durables, seront responsables. Et j'espère qu'en 2050, les marques de fast fashion, H&M, Zara, pas qu'elles n'existent plus, parce qu'elles font vivre des ouvrières dans des pays en développement, et c'est hyper important. Et ces femmes-là, elles ont besoin de travailler pour leur indépendance et pour leur émancipation. Donc c'est pour ça que je fais très attention quand on appelle au boycott des marques et tout, pour leur empouvoirment et tout. Donc ça, c'est hyper important. Mais j'espère que les marques auront divisé par je ne sais pas combien leur quantité de vêtements qu'elles produisent. Quand ces marques-là font la promotion de « oui, on fabrique notre collection en coton bio et tout », mais on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est pas l'innovation qui va nous sortir de là. Il faut arrêter de vendre autant de vêtements. C'est la seule chose aujourd'hui qui importe, quoi. C'est génial de privilégier le coton biologique et les matières recyclées et tout. C'est hyper important, mais c'est pas ça qui va faire de ces marques de fast fashion, Zara, H&M, des marques responsables. Absolument pas. Ça, c'est du greenwashing. Il faut arrêter de croire à ces messages-là. Donc, j'espère qu'en 2050... Déjà, on ne parlera plus de mode responsable parce que toutes les marques le seront. Et qu'en plus, ces marques de fast fashion auront revu leur modèle économique et ne vendront plus autant de vêtements, quoi. Voilà. Donc, je la vois comme ça, moi, la mode en 2050.
C'est très positif. Hein.
Voilà. Ouais, j'essaie. Il faut. Sinon, on ne continue pas le combat et on ne s'engage pas, quoi, si on ne pense pas qu'on va y arriver. Donc, moi, je crois qu'on va y arriver. Donc, je reste positive.
Ouais, c'est ça. Merci beaucoup.
Avec plaisir, merci d'avoir donné la parole.
On remercie Chloé pour le temps qu'elle nous a consacré pour parler de nouveaux modèles et de l'importance de la sphère médiatique dans la diffusion de contenu et connaissances sur les alternatives et les solutions durables liées à la mode, et d'avoir réfléchi avec nous à la mise en application des objectifs de développement durable.
Si vous voulez découvrir ou redécouvrir les portraits des femmes actrices de la mode durable, ainsi que les bonnes nouvelles, podcast Nouveau Modèle, rendez-vous sur son site nouveaumodèlepodcast.com ou sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Pour suivre les actualités du podcast et vous engager dans le challenge des 11 jours pour adopter une garde-robe responsable, n'hésitez pas à aller sur Facebook, Instagram et Twitter.
Nos réseaux sociaux sont également actifs. Nous sommes sur Facebook, Instagram et Twitter sous le nom d'Asso4D.
Et bien sûr, que vous soyez une association, un particulier, une entreprise, vous pouvez adhérer à l'association pour nous soutenir dans nos actions et aller ensemble vers un monde durable et désirable d'ici à 2030.
On vous dit à bientôt.